arrive que la neige sur la terre et la neige dans le ciel se mélangent. Parfois, des nuages sont traversés par des arcs-en-ciel. Parfois, le panorama devient uniformément blanc. Le phénomène de white-out, le blanc dehors ou jour blanc, est familier aux montagnards. Cette situation est fréquente aussi sur la banquise. La lumière réfléchie se réduit, les paysages deviennent absents, les ombres s'effacent, le fond disparaît, il fusionne avec son contraire, les lignes horizontales et verticales coïncident, une clarté toute plate aveugle, le sens qui généralement domine dans d'autres circonstances, l'œil, avoue son impuissance. Les autres sens vacillent. En montagne, il faut regarder ses pieds et attendre que les sommets tout en haut se dévoilent pour se raccrocher à des repères. Qui progresse sur la banquise doit avoir l'oreille attentive afin d'entendre, par exemple, le bruit des vagues sans distinguer aucune côte. Souvent, derrière la glace, il y a encore de la glace. Toute une étendue se tient et se prolonge à perte de vue. On la devine sans la comprendre. Ce n'est pas ce que l'on voit qui nous inspire de l'effroi, mais la connaissance de ce qui s'étend au-delà de nos yeux. Nous ne voyons que quelques kilomètres de neige chiffonnée, unis par un horizon de vaguelettes, mais nous savons qu'au-delà de cet horizon, il y a des centaines et des centaines de kilomètres qui n'offrent rien à l'œil épuisé. Les manières familières d'appréhender le temps et l'espace sont neutralisées. Celui qui veut réellement admirer la nature doit l'observer dans ses extrêmes. Sous les tropiques, l'œil se perd dans l'énorme quantité de détails à admirer. Ici, il se concentre, faute de détails, sur l'imposante totalité et, faute d'un produit unique, sur les forces productives. Ni distraite, ni influencée par l'élémentaire, l'attention se focalise ici sur les forces mêmes de la nature. Quelles que soient les expériences vécues, les mondes de glace et de neige dérangent les certitudes. Ils décivilisent le regard. Personne ne peut tricher avec ses convictions ni même avec ses sens. C'est une épreuve de vérité. Lorsque le fond et la surface ne se distinguent plus, une alternative se présente, la contemplation intérieure ou le corps à corps avec la glace et le ciel dont l'image lumineuse est filtrée.
Pour qui veut bien regarder, tout fait art. La nature, la ville, l'homme, le paysage, l'air du temps, sur toute chose enfin, la lumière. Par ailleurs, chacun connaît l'art des artistes, celui qui porte signature. Peintre, sculpteur, musicien, écrivain, cinéaste, danseur, etc. sont convoqués sur la question de l'art, à propos de laquelle, on le sait, il y a toujours beaucoup à dire. Il existe cependant une plage indéfinie où se croisent le champ brut de la nature et le territoire authentifié de l'homme. Ce terrain de rencontre produit des figures à la fois éloignées et proches de l'art. Pour ma part, je considère comme art involontaire le résultat heureux d'une combinaison imprévue de situations ou d'objets organisés entre eux selon des règles d'harmonie dictées par le hasard. Cet art, peu estimé car non prémédité, flotte à la surface des choses. Il est sans poids puisque la société ne lui en donne pas. C'est un art sans statut, sans discours, à ce point dépourvu de messages qu'on peut le lire, enfin, pour ce qu'il représente, une figure du hasard. C'est un art démuni, privé d'action et d'opportune mission. Il se dérobe aux politiques, se montre à la hâte et disparaît aussitôt. Un exemple. quartier résidentiel du Cap, Afrique du Sud. Entouré d'un grillage à mailles courtes, le golf impeccable de Mouillepoint se déploie aux abords de la ville. La clôture est si bien et si constamment au vent du sud que le vol des plastiques y est capturé sur toute son étendue. Parfois, elle laisse s'échapper d'infimes lambeaux arrachés par l'usure au corps des sacs déchirés. Moderne, étanche et réputée imputrescible, le plastique emballe, entoure, protège, conserve et se jette. À partir de cet instant, il échappe au destin normal des déchets pondéreux. Il s'envole. Cela est dû à sa légèreté et sa forte prise au vent. Chacun sait cela, mais personne ne s'est avisé de suivre au marqueur le parcours d'un sac. On le fait pour les oiseaux migrateurs ou les mammifères en péril, mais le destin des plastiques, jusqu'à présent, ne fait l'objet d'aucune cartographie. Plaqué dans l'air, bruissant d'une légère agonie, les déchets de l'humanité se distribuent, de haut en bas, selon la règle des faibles pesanteurs. Les forces ordinaires de la gravité s'exercent avec difficulté. Quelques fragments ont tendance à l'escalade, d'autres se déplacent latéralement, mais la plupart restent figés, joues gonflées dans le grillage. Quelques papiers s'y ajoutent, mais la pluie les fatigue. De son côté, le soleil ardent rend cassante la matière ordinairement souple des envols. Le temps travaille à l'usure du tableau, mais la ville, par ailleurs formidable pourvoyeuse de matière, alimente le vent pour assurer constamment son renouvellement.
À l'été 1930, en Norvège, une exceptionnelle fonte des glaces dévoile des corps et les restes d'un campement de fortune. Ainsi se résout un mystère. En 1897, Salomon Auguste André, Knut Frankel et Nils Strindberg, le frère de l'auteur, s'élevaient dans les airs, déterminés à atteindre le pôle Nord en ballon et disparaissaient. Parmi les vestiges, on exhume des rouleaux de pellicules abîmés qui vont miraculeusement livrer des images. Ils sont debout, devant une forme sombre, un immense ballon tombé, immobile comme un animal échoué. On sent, dans le tissu tendu, le souffle d'un vent, comme si une bouche immense le gonflait encore. L'un d'eux amorce un mouvement. L'autre est immobile déjà. Ils étaient en plein ciel et maintenant ils sont là, à contempler la masse inerte de leurs rêves. L'image porte toute l'étrangeté des débuts de la photographie, des premiers portraits d'anonymes et de spectres. Une multitude de points sombres la crible comme des insectes. Sa surface est d'un gris velouté, moiré de reflets vagues laissés par la lumière, lisse comme un tissu, profonde comme l'eau d'une mer, semée de constellations abstraites, taches, crépitements charbonneux, bords qui bavent comme de l'encre, traces d'une clarté trop violente, rayant le paysage ou vapeurs qui dissipent toutes les nuances du noir. Si l'on nommait ces scories, si l'on tente de les soulever comme un voile, ils restent noir sur blanc, près de la masse du ballon, deux silhouettes comme tenues dans le vide par une main invisible. On ne sait où est le sol, où est le ciel, que parce que leurs pieds sont posés quelque part. Sans eux, on pourrait aussi bien croire à une falaise de glace ou à un morceau de sucre tenu entre deux doigts. Rien ne dit leur sexe, leur âge, juste ce qui permet dès l'enfance de représenter une forme humaine, deux bras, deux jambes, un corps massif, une petite tête. S'ils sont deux sur cette image, c'est qu'un troisième devait tenir l'appareil. un autre homme, invisible, à qui nous la devons.
Sur le caractère. Enseigner les moteurs de l'évolution, comme on enseigne les langues, les sciences, les arts. Sur le statut. Envisager la dimension planétaire. Sur les enjeux. Maintenir ou augmenter la diversité par une pratique consentie du non-aménagement. Sur la représentation et les limites. Considérer les limites comme une épaisseur et non comme un trait. Sur le rapport à la société. Hisser l'improductivité à hauteur du politique. Valoriser la croissance et le développement biologique par l'opposition à la croissance et au développement économique. Ménager les sites frappés de croyances comme indispensable, territoire d'enterrement de l'esprit. Sur le rapport à la culture, inverser le regard porté sur le paysage en Occident.
Message d'un pigeon voyageur intercepté dans le nord de l'Islande, daté du 11 juillet 1897 et retrouvé en 1899. L'humeur est excellente.
Les glaciers sont des archives du passé, de véritables bibliothèques à ciel ouvert. Leurs cristaux de glace cachent des richesses infinies, des bulles de gaz, des isotopes d'oxygène. Certains carottages de galottes en Antarctique remontent des signatures chimiques vieilles de plus de 800 000 ans. Les échantillons prélevés au moyen de grands tubes métalliques abritent les témoignages d'événements antiques. La communauté scientifique les date sur une échelle de temps long. Une éruption volcanique s'est produite quelques millénaires plus tôt. Les nuages avaient telle température au moment où les flocons sont tombés, puis se sont cristallisés. Les cristaux contiennent les vestiges de l'ancienne atmosphère. Le ciel est dans la glace. C'est la raison pour laquelle la disparition progressive des étendues glaciaires rend l'humanité chaque jour un peu plus amnésique. Nous perdons notre propre mémoire et le présent lui-même s'efface sous nos yeux.
L'argument des professeurs et des agents de culture contre l'art brut est que l'art purement brut, intégralement préservé de tout apport provenant de la culture et de toute référence à elle, ne saurait exister. Je ferai alors observer aux professeurs que le même caractère de chimère qu'il trouve à la notion d'art brut peut se trouver de même en n'importe quel autre. Et par exemple, pour citer une notion à laquelle sont en ce temps-ci sensibilisés nos milieux culturels, la notion de liberté. C'est en effet que l'art brut et la liberté ne doivent pas se concevoir comme des lieux, ni surtout des lieux fixes, mais comme des directions, des aspirations, des tendances.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, naît une atmosphère technoscientifique animée par l'aventure spatiale, la course aux armes nucléaires et leur discours sur la pression et l'entropie. En 1919, Marcel Duchamp encapsule l'air de Paris dans une fiole de verre finement soufflée, un ready-made faisant apparaître l'espace dit négatif comme espace rempli d'air. Duchamp propose l'imperceptible comme cœur à la fois structurant et dématérialisant de l'objet d'art moderne.
Sur les photographies de Strindberg, Frankel et André, la banquise n'est qu'un décor, une toile de fond dont on distingue mal les nuances. Ce qu'ils tiennent à montrer, ce sont leurs corps dans le champ, leurs pieds sur le sol blanc. Ce nord-là, c'est la réduction progressive de ce qui est donné à voir, alors on n'existe plus fort. Il n'y a plus que soi à l'image. Ils ne peuvent pas savoir qu'un jour, près d'ici, pousseront des villes, ni que ce vide auquel ils font écran de leur corps fatigué sera précisément la rareté qu'un jour, dans l'Arctique, d'autres viendront chercher. Ils savent que la nuit est immense sous ces latitudes et qu'elle dévorera tout dans quelques semaines. Ils se doutent que le pôle Nord n'est pas une terre, rien qu'un point, à placer dans un océan de glace. Le rêve s'est effrité, mais il reste assez dense, la bête assez vivace, pour faire croire qu'un miracle pourrait survenir là, dans ce lieu qui semble toujours à la fois en sommeil et sur le point de s'éveiller.
Il y a la règle, ça va. Il y a l'exception, ça va. La règle, c'est la culture. Non, il y a la culture qui est de la règle, qui fait partie de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art, qui fait partie de l'art. Tous disent la règle, cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Et voilà. Personne ne dit.
Personne ne dit l'exception. Répétez encore. Tous disent la règle, personne ne dit l'exception. Pardon. Je vous demande pardon. Ça ne se dit pas. Cela ne se dit pas, cela ne se dit pas. Cela s'écrit.
Dans l'un des rares passages introspectifs de son journal, André se demande, rêveur, si ses compagnons et lui seront considérés comme des fous, ou si quelqu'un, un jour, tentera de les imiter. Admettant que son entreprise est avant tout motivée par la volonté de ne pas rester un anneau de la chaîne commune, de ne pas être oublié. Sur quoi il ajoute, lucide, « Mais nous pouvons mourir, puisque nous avons fait ce que nous avons fait. » Sortir de la chaîne commune par la voie royale, voilà ce qu'ils veulent tous, et ainsi s'inscrire dans une autre chaîne, plus brillante, moins ordinaire, dont les anneaux s'emboîtent pour gravir, marche après marche, l'échelle qui sépare du ciel. En 1782, les frères Montgolfier cherchent à emprisonner les nuages dans un tissu pour le faire voler. En voyant l'étoffe d'une chemise s'élever au-dessus de leur cheminée, ils s'interrogent, réitèrent l'expérience et finissent par comprendre. Ce qui permet le vol, ce n'est pas les nuages, mais la chaleur d'une combustion. Ils font brûler tout ce qu'ils peuvent. Ils tentent le foin et le fumier, les vieilles chaussures, la viande décomposée. Et, le 4 juin 1783, s'élance le premier ballon à air chaud. Apprenant leurs avancées, un Français, nommé Jacques Charles, connu pour avoir capturé l'espace de quelques instants l'image d'une silhouette sur du papier, avant l'invention de la photographie, tente de faire voler un ballon à l'hydrogène. La photographie, l'aéronautique, même combat. Il s'agit toujours de saisir, d'attraper, de rétrécir, de posséder.